France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Cher Éric, bonsoir.
Bonsoir mon cher Thomas et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, un acte qualifié de barbare, horrible et lâche, condamnation internationale de la Russie. Après deux tirs de missiles qui ont fait une trentaine de morts et près de 120 blessés dans le centre-ville de Soumy, les victimes seraient essentiellement des civils. Nos envoyés spéciaux en Ukraine ont pu se rendre dans cette ville cet après-midi. Leur reportage à suivre. À la une également, 40 milliards d'économies qu'il faudra bien trouver pour ficeler le budget de l'an prochain. Plusieurs ministres ont passé une partie de la journée à nous prévenir. Il faudra bien se serrer la ceinture, mais ça ne passera pas par des hausses d'impôts. Ce dimanche était aussi une grande journée sportive. Ça a commencé par le marathon de Paris, bouclé pour le meilleur temps en 2h20 minutes 25 secondes. Puis le tournoi de tennis de Monte-Carlo, remporté par l'Espagnol Carlos Alcaraz. Et enfin le Paris-Roubaix, la déception de Tadej Pogacar. Pourtant en tête de la course, il a chuté à 38 km de l'arrivée. C'est donc son poursuivant, Mathieu Van Der Poel, qui remporte ce Paris-Roubaix. Enfin, nous irons à Canet en Roussillon, vérifier que la saison touristique approche. Les planches commencent à être vissées sur le sable pour accueillir les transats. Le temps d'ailleurs, le temps de demain, lundi, c'est Linda Costa, mais là, ce sera avec de la pluie sur le sud-est.
Oui, et ça dès le matin, averses qui prendront même un caractère orageux dans l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. C'est donc l'attaque la plus meurtrière depuis de longues semaines en Ukraine. Deux tirs de missiles russes ce matin sur le centre-ville de Soumy, au nord-est du pays. Ces tirs ont fait au moins 34 morts, 117 blessés, des civils essentiellement, parfois des enfants. L'attaque est condamnée donc par une grande partie de la communauté internationale. On va y revenir. On va d'abord rejoindre sur place nos envoyés spéciaux. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec Gilles Gallina et Yachar Fassinov, vous avez pu vous rendre dans le centre-ville de Soumy, dévasté. D'ailleurs, le quartier était bondé ce matin au moment de la frappe russe.
Oui, les deux missiles ont frappé au cœur de la ville, des bâtiments de l'université où un concert de jeunes devait avoir lieu à 11h ce matin. 40 minutes plus tôt, la première frappe a touché l'immeuble en face de chez Nadia. C'était très fort, nous dit-elle. Tout notre bâtiment a été endommagé. J'ai tout de suite pensé aux gens qui meurent. Ici, on est en plein centre. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Les enfants et leurs mamans se promènent. On bénit les rameaux. Alors ce soir, les rues restent jonchées de débris, des voitures calcinées et criblées d'éclats de métal. Un vélo également renversé qui bloque le trottoir. Les riverains, hébétés, choqués, errent dans le périmètre de sécurité où les secouristes continuent de travailler. Oler Strilka est leur porte-parole. Je pensais avoir tout vu dans ma vie, mais ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse tout le reste. Des véhicules en feu, le bus aussi, avec des passagers innocents. Tout était détruit. Tout brûlé à l'intérieur, il y avait des gens, c'était l'horreur, les cris, les larmes, la panique. C'est une extermination ciblée des populations civiles, poursuit ce secouriste expérimenté, pour qui les missiles envoyés ici avaient pour but de faire un maximum de victimes.
Nos envoyés spéciaux à Soumy, au nord-est de l'Ukraine, Faustine Calmel, Gilles Gallinaro, avec Yachar Fassilov. C'est donc la frappe la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine, depuis la mi-février, et la reprise de contact entre Washington et Moscou, initiée par Donald Trump. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Eric.
Les États-Unis estiment ce soir que la Russie a, je cite, dépassé les limites de la décence.
Oui, la déclaration vient de l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, qui ajoute qu'en tant qu'ancien responsable militaire, il sait que ce sont des frappes ciblées et ceci, dit-il, est inacceptable. Cette frappe massive, après celle de Kryvyi Rih au centre du pays il y a 10 jours, 18 morts dont 9 enfants qui avaient choqué tout le pays, pourrait provoquer un changement de ton chez Donald Trump. Le président américain a multiplié ces dernières semaine les signes d'énervement, voire parfois de colère envers Vladimir Poutine. En mars, Washington a proposé un cessez-le-feu inconditionnel accepté par Kiev. Mais depuis, Moscou n'a jamais cessé ses frappes sur l'Ukraine. Ce soir, après cette attaque sur Soumy, l'ambassadrice de l'Union européenne à Kiev parle de crimes de guerre. Le président français Emmanuel Macron appelle, tout comme le premier Premier ministre britannique Keir Starmer à des mesures fortes pour imposer une trêve à Moscou. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, je cite « Une frappe le dimanche des rameaux, le jour où des gens vont à l'église. Seuls des salauds peuvent faire ça. »
Virginie Pironon, direction internationale de Radio France. Et à toute cette indignation internationale, eh bien j'ajoute celle de l'Allemand Olaf Scholz qui parle à son tour d'une attaque barbare, un acte russe horrible et lâche, condamne également l'Italienne Giorgia Meloni. Le dernier hôpital de la ville de Gaza est sévèrement endommagé depuis une frappe israélienne ce matin. Israël qui affirme qu'il abritait ce bâtiment à un centre de commandement du Hamas, ce que dément le mouvement islamiste palestinien. Il n'y aurait aucune victime car l'hôpital aurait été évacué préalablement.
France Inter, Éric Delvaux.
Il aura fallu pas moins de 3 ministres aujourd'hui pour faire passer le message. En économie, il va falloir se serrer la ceinture et rogner sur 40 milliards d'euros. Message martelé par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, par le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, et par la ministre des comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a précisé sur France Inter à la mi-journée que ça ne passerait pas par des hausses d'impôts. En revanche, a-t-elle dit, les niches fiscales sont dans le collimateur.
Vous savez combien il y a de niches fiscales en France ? Il y en a 467. Vous avez aujourd'hui des niches fiscales qui bénéficient à moins de 10 contribuables. Vous avez des niches fiscales qui ont été inventées il y a 20 ans pour accompagner un secteur industriel. Entre-temps, le secteur industriel a changé, les besoins ont changé, mais la niche, elle est toujours là. Et donc, vous en avez 467 qui font baisser la facture des impôts de 85 milliards d'euros. Je pense que nous pouvons collectivement nous dire, vous voyez, que sur 85 milliards d'euros, si on supprime des niches, on en réduit certaines autres, on donnera de l'équité, on donnera de la lisibilité, on donnera de la justice. Et les Français comprendront très bien que quand le monde change, bah, on a aussi le droit de changer les règles pour les rendre plus adaptées à nos besoins. Pour 2026, la cible que nous nous fixons, c'est 4,6% de déficit, ce qui reste, vous voyez, encore assez loin du 3%. Et pour passer de la situation d'aujourd'hui à ce que nous voulons faire en 2026, c'est effectivement un effort de 40 milliards par rapport à ce qui se passerait si nous disions que nous ne pouvons rien faire.
Amélie de Montchalin, à la mi-journée avec Élodie Forêt sur France Inter dans l'émission Questions politiques. Et sur le même sujet, François Bayrou a l'intention la semaine prochaine de sensibiliser les Français à ce qu'il appelle les pathologies budgétaires du pays. C'est une sorte de grand-messe qui se prépare. Elle va réunir des ministres et des parlementaires mardi, donc, pour évoquer les conséquences d'un budget 2026 resserré. Et puis mercredi, le gouvernement devrait présenter en Conseil des ministres son plan budgétaire et structurel à moyen terme, c'est-à-dire la trajectoire budgétaire de la France pour les années à venir. Il risque d'y avoir quelques demandes d'explication mardi lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du groupe automobile Stellantis, né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. L'action de Stellantis n'en finit plus de chuter, elle vaut 4 fois moins cher qu'il y a 11 mois, emportée par le cyclone Trump et ses droits de douane. À l'époque, le groupe avait un patron, il s'appelait Carlos Tavares, depuis il a démissionné, et son remplaçant n'est toujours pas trouvé. Ça fait bientôt 6 mois que le groupe navigue à vue, sans capitaine, et ça risque donc de faire grand bruit mardi parmi les actionnaires qui ne digèrent d'ailleurs toujours pas le chèque colossal de 34 millions d'euros que Carlos Tavares a perçu, en laissant donc un groupe en grande difficulté, Maxime Debs.
Avec cette action qui a perdu en un mois plus de 30% de sa valeur, toute personne qui s'intéresse de près à Stellantis, des actionnaires aux salariés, verrait d'un bon œil que l'identité du futur PDG soit dévoilée au plus vite et pourquoi pas lors de cet AG. En interne, un nom circule avec insistance depuis des mois, l'Italien Antonio Filosa, l'actuel directeur des opérations de Stellantis aux États-Unis, où le constructeur est aujourd'hui bloqué dans le collimateur de Donald Trump pour assembler ses véhicules au Canada et au Mexique. Choisir un profil à la Filosa, déjà implanté aux États-Unis, pourrait potentiellement être un facilitateur, d'autant que le marché américain est porteur, crucial que Stellantis en a plus que besoin. Le risque pour les usines en France étant de voir s'éloigner le centre de décision. Or, ça fait quelque temps déjà qu'on a cette impression, glisse inquiet un représentant des salariés ex-PSA, avec là-dessus un flou complet quant à savoir qui qui prend réellement les décisions depuis le départ de Carlos Tavares.
Maxime Deps, Service Écho de France Inter. Dans la Vienne, les recherches pour retrouver la joggeuse disparue jeudi dernier se resserrent désormais sur un secteur restreint d'environ 3 km² autour de Vivonne. Sur le plan judiciaire, de nouvelles auditions de témoins sont en cours. Le procureur précise que ces personnes entendues sont en lien avec l'environnement sentimental, familial et amical de la jeune femme de 28 ans, qui reste donc introuvable. C'était en août 1942, l'Allemagne nazie proclamait l'enrôlement de force des jeunes Alsaciens et Mosellans dans son armée. 130 000 jeunes se sont ainsi retrouvés sous l'uniforme de la Wehrmacht. Et bien 83 ans après, la cathédrale de Strasbourg a accueilli aujourd'hui une cérémonie en hommage à ceux qu'on a appelés les malgré nous. C'est d'ailleurs la toute première célébration de ce type, en présence aujourd'hui d'une vingtaine de personnes âgées de 97 à 102 ans, jadis incorporées de force. Écoutez le témoignage de Marie-France, cette Strasbourgeoise. Son oncle a été un malgré nous et il n'est jamais revenu de Russie où l'Allemagne l'avait envoyé.
Autour de moi, tout à l'heure, quand j'étais assise, il y a plusieurs personnes, j'entendais dire « Enfin, après 80 ans, on pense à eux. On a attendu ça longtemps. C'est venu 80 ans après, mais bon, c'était important pour nous. C'est un sujet mal connu dans le reste de la France. Hein. Voilà, c'est sale boche. Hein, on va dire, on va regarder cela alsacien. Oui, mais c'était des sales boches à la solde des Allemands. Hein. Ça reste encore, malheureusement, encore dans l'esprit de certains, pas de tous. Je pense qu'il y a il faut être peut-être quand même optimiste. Il y a quand même des Français, on va dire, de l'intérieur, qui évoluent dans le bon sens, on va dire. Hein.
Voilà pour ce témoignage ici Alsace, au micro de Thomas Vichard. À Villeurbanne, pour la Pâque juive, la présence policière est renforcée auprès des synagogues. 2 jours après une nouvelle agression antisémite, c'est la 3e dans cette ville de la banlieue lyonnaise. Vendredi, un homme portant une étoile de David autour du cou a été pris à partie par 2 hommes. L'un l'a frappé au visage en le traitant de sale juif, pendant que l'autre filmait la scène. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse, annonce qu'il va porter plainte demain contre le mouvement pro-palestinien BDS, mouvement qui a déployé une banderole hier dans la ville de Montpellier lors d'une manifestation en soutien au peuple palestinien. Une banderole où le nom du maire donc était associé à un sigle nazi, associé également au mot génocide, lui-même rattaché à Israël, de quoi contribuer au climat d'antisémitisme qui fait tant de mal à notre pays, commente ce soir le maire de Montpellier sur le réseau X. La page des sports, on commence par le Paris-Roubaix. Le duel entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel a tenu toutes ses promesses, enfin jusqu'au 38e kilomètre. Vous allez tout nous expliquer. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous avez donc suivi cette course aujourd'hui de bout en bout et c'est finalement Mathieu Van Der Poel qui remporte son 3e Paris-Roubaix consécutif.
Et oui, comme vous pouvez l'entendre derrière moi une fois de plus, c'est son nom qui a résonné dans le vélodrome de Roubaix ce soir, trouvant Mathieu Van Der Poel même la force de lever son vélo au-dessus de sa tête et l'Hercule en franchissant la ligne d'arrivée seul avec plus d'une minute d'avance sur le Tour du Monde slovène Tadej Pogacar. Entre les deux vraiment, hein, qui n'ont cessé d'attaquer pour lâcher un à un leurs adversaires, tout s'est joué, vous l'avez dit, à 38 km de l'arrivée sur une erreur de trajectoire de Pogacar qu'a souligné son manager Mauro Gianetti.
Ça lui a fait perdre 20-25 secondes. Après, il a essayé de revenir, mais quand on doit gagner du temps sur Van Der Poel, ce n'est pas évident. Vous savez, il y a toujours des regrets après la course, mais je crois que Van Der Poel, aujourd'hui, il était vraiment très costaud. Mais c'était un spectacle vraiment génial à voir.
Un spectacle de haut vol, effectivement, avec 2 coureurs que l'on a vu pour une fois souffrir au bord des crampes dans le final, c'est très rare. Un duel qui restera et une certitude. On reverra Pogacar sur les pavés et très certainement en vainqueur. Écoutez plutôt l'hommage que lui a rendu ce soir Mathieu Van Der Poel.
Ouais, c'est un incroyable champion. Ouais, tout le monde, c'est presque normal qu'il vienne ici pour la première fois et qui finit 2e, et ouais, c'est quand même exceptionnel. Et aussi, juste Paris-Roubaix, c'est quelque chose de spécial. C'est une course unique et ouais, je suis vraiment fier de gagner pour la 3e fois.
Mathieu Van Der Poel très fier. Les deux hommes se sont tombés dans les bras. La ligne d'arrivée franchie. Ils en sont désormais, écoutez bien, à 8 monuments chacun. Et question d'histoire, Van Der Poel n'est pas en reste. Hein, puisqu'avant lui, seuls deux coureurs avaient gagné 3 fois de suite l'Enfer du Nord. Octave Lapiz, au début du siècle dernier, et Francesco Moser.
La Bible du sport, Fanny Lechevestrier, à l'arrivée donc du Paris-Roubaix. En tennis, pour la première fois de sa carrière, l'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo. Au passage, le numéro 3 mondial devient le numéro 2. Il a battu aujourd'hui en finale l'Italien Lorenzo Musetti, 16e mondial. Victoire en 3-7. 42 km 195, c'est la distance entre la ville d'Athènes et celle de Marathon. Eh bien, ils étaient 55 000 ce matin à prendre le départ pour parcourir cette même distance en petite foulée dans les rues de Paris. En 2h20min25s pour le plus rapide. Le Marathon de Paris, c'est aussi 50% de néophytes, 33% d'étrangers et une moyenne d'âge de 37 ans. Retour sur cette journée qui a fait mal aux jambes et laissé surtout de belles images plein les yeux. Reportage de Clément Arnal.
Les Champs-Élysées se sont remplis très tôt ce matin de coureurs et de supporters. C'est là que le grand départ du marathon est donné. Dès 8h, ce sont les élites qui s'élancent avant plusieurs vagues de départ en fonction du temps visé par les coureurs qui peuvent compter sur leurs proches pour les soutenir. Marie, étudiante.
Je viens soutenir mon petit frère qui court son premier marathon. Il y a vraiment beaucoup de bruit et les gens sont là pour encourager tout le monde. Et ça fait du bien de voir tout le monde ensemble pour encourager des gens qui ne connaissent pas au final.
Après les pros, les amateurs arrivent aussi peu à peu. La marque des plus de 42 km se lit sur beaucoup de visages. Mais Cyril est très fier d'avoir terminé.
Toujours aussi dur, entre guillemets. Après, un temps correct, pas de pluie, donc c'est le top.
Les coureurs toujours aussi séduits par le tracé dans la capitale.
Ça fait plaisir de faire des courses comme ça. Paris, c'est Paris, quoi. On a les plus belles avenues qui sont bloquées pour nous, donc c'est plutôt cool, faut en profiter. Il y a du monde tout le long, les gens sont géniaux, ils encouragent. Ça donne envie de dire merci aux gens d'être là et de se donner encore plus, quoi.
La clôture d'une bien belle journée de sport dans les rues de Paris. Cette année, les femmes ont représenté un tiers des participants à l'épreuve.
Clément Arnal. Maintenant, nous partons à Osaka, c'est au Japon, donc pour l'exposition universelle qui a ouvert ses portes ce matin. Pendant 6 mois, presque tous les pays du monde présentent leur vision du futur et grosse fréquentation pour cette première journée. À Osaka, notre envoyé spécial Julien Baldacchino.
Des dizaines de minutes d'attente, parfois des heures pour certains pavillons et une pluie battante. Megan, venue de Nouvelle-Zélande avec son mari Kevin, est un peu déçue.
Il y a beaucoup de monde et beaucoup de pluie, il fait froid. On n'a pas vu grand-chose parce qu'on a attendu trop longtemps.
C'est un peu décevant, mais je pense que les gens anticipent mieux que nous.
Mais pour beaucoup, la météo n'est pas un problème. Le ring, cet anneau de bois qui surplombe l'expo, ne désemplit pas. Alexandre, qui est suisse, et Manuela de Dijon ont profité d'un voyage au Japon pour venir et apprécier leur première expérience d'une expo universelle.
On ne se sent pas perdu. Ils parlent anglais. Et pour un premier jour, niveau monde, je trouve que ça va. Et
c'est quoi qui vous frappe le plus en arrivant ?
La devanture des pavillons, parce que c'est la première impression qu'on a. J'espère que l'intérieur sera aussi beau que l'extérieur.
Pour les équipes des pays participants, c'est aussi un aboutissement. Le designer du pavillon américain, Christian Lachelle, se réjouit de cette affluence.
C'est mon moment préféré dans chaque projet. Il n'y a rien de tel que de voir le public. On ne sait jamais comment ça va se passer jusqu'au moment où on se retrouve face au public et ils vous disent immédiatement ce qu'ils en pensent. En voyant les premiers groupes, je les ai trouvés vraiment ravis.
Au total, les organisateurs espèrent recevoir 28 millions de visiteurs en 6 mois.
En France, ça fait partie des rituels et des signaux qui nous révèlent que la saison touristique approche. Sur les plages du Roussillon, les saisonniers commencent à installer les clubs de plage. Les planches, donc, commencent à être vissées sur le sable. Exemple, au Canet, au club de la Voile Blanche, les futurs barmen, cuisiniers et autres moniteurs de voile se reconvertissent quelques semaines en charpentier, en plombier ou en électricien. Il ne manquera bientôt plus que les transats, Augustin Ourlier.
Sur la plage de Canet, les perceuses, disqueuses et autres marteaux se font plus bruyants que les vagues. En quelques jours de travaux, on devine déjà le futur club de plage avec le plancher du bar et l'espace pour les transats. Seulement 3 semaines pour monter toute la structure, mais pour Axel, le directeur qui sort de la cabine d'un engin de levage, ça va le faire.
Bah, c'est toute une organisation. Maintenant, après 15 d'années de montage, on commence à prendre le pli. Il y a tout ce qui est installation des containers, terrasse, après il y a la charpente et après il y a tout ce qui est aménagement du club. Mais avec une bonne organisation, une bonne équipe, on y arrive assez bien.
Et l'équipe en question, c'est Axel et ses 7 saisonniers. L'installation du club, c'est le moment où ils se retrouvent et où les anciens accueillent les nouveaux. Et ça se passe plutôt bien pour Bastien.
C'est mon premier jour et j'ai l'impression que ça fait 2-3 semaines que je suis là déjà. Ouais, c'est cool.
Faire des paillotes, aménager 8 conteneurs et monter une charpente, c'est peut-être un peu sportif, mais pour Raphaël, le responsable de salle depuis 7 ans, c'est une bonne introduction au reste de la saison.
C'est pas la même pression que pendant le service. Donc moi j'aime bien. On prend un peu plus le temps. Ça met un petit peu d'adrénaline, de se préparer, de savoir ce qu'on va faire de nouveau à la carte, de voir les petits changements. C'est toujours une petite excitation.
Et pas de temps à perdre, le chef de salle retourne dans un des conteneurs pour installer des câbles. L'équipe doit finir de monter le club Les Voiles Blanches d'ici début mai, pour accueillir les premières vagues de clients.
Un reportage ici, Roussillon, et ça sent la crème à bronzer. Le temps.
La météo, avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On n'en a pas fini avec la pluie la semaine prochaine.
Oui, c'est vrai parce que les perturbations vont s'enchaîner. On retrouvera demain celle qui est déjà présente sur le sud du pays aujourd'hui. Elle va jouer les prolongations avec encore de bonnes averses toute la journée entre les Pyrénées, la région PACA, la Corse et en remontant toujours vers la Franche-Comté. Ces averses deviendront parfois orageuses dans l'après-midi, surtout sur le sud de la région PACA, sur la Corse également. Et puis on verra aussi se développer des averses sur le sud-ouest dans le courant de l'après-midi avec là aussi quelques coup de tonnerre. Pour le reste du pays, ce sera plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Puis en fin de journée, une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera par la façade atlantique. C'est elle qui traversera la France mardi.
Et pour les températures?
Les minimales seront à nouveau en baisse avec 5 à 11 degrés en moyenne, jusqu'à 14 près de la Méditerranée. Pour les maximales, on ira de 16 à 21 degrés d'ouest en est. Un petit peu moins près de la Manche, on dépassera rarement les 14 degrés.
Merci Céline Dacosta.